France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Depuis les événements récents, il existe beaucoup de groupes WhatsApp qui proposent des producteurs locaux, du marché de proximité.
Ce qui a été véritablement soutenu pendant des années, c'est le modèle de l'export qui avait toutes ses raisons d'être, hein, mais qui montre aujourd'hui les limites dans un système où on est obligé de s'éloigner des modèles intensifs.
La réalité, c'est que 85% des produits que nous consommons sont des produits issus de l'importation. Donc pour pouvoir consommer plus localement, il faudrait augmenter ce volume de production locale, mais également faire en sorte qu'il y ait des organes, une structuration des filières.
Inacceptable, révoltant, inexplicable, c'est ainsi que Manuel Valls qualifie l'écart de prix entre les Antilles et l'Hexagone. Le ministre des Outre-mer s'est rendu en Martinique 5 mois après la signature d'un protocole d'objectifs et de moyens censé répondre à la colère contre la vie chère qui a entraîné des émeutes et des pillages à l'automne dernier. Avec ce dispositif, l'État comptait faire reculer de 20% les prix de plus de 6000 produits de l'alimentation courante, sachant que les denrées alimentaires sont en moyenne 40% plus chères que dans l'Hexagone. Mais au quotidien, jusqu'à présent, les Martiniquais n'ont pas vu la différence. Manuel Valls promet donc à présent un plan de bataille complet et structurel contre la vie chère, avec un projet de loi qui sera nourri des propositions des parlementaires ultramarins. La Martinique doit sortir d'une économie de comptoir, analyse le ministre, rompre avec la dépendance aux importations, favoriser la production locale et l'autonomie alimentaire. Oui, mais comment ? L'alimentation est un enjeu majeur. Aujourd'hui, près de 80% des produits alimentaires sont importés, principalement depuis la France et les pays de l'Union européenne. Les filières de la banane et de la canne à sucre continuent de capter l'essentiel des aides publiques à destination du secteur agricole, qui aurait pourtant besoin de se diversifier pour mieux répondre aux besoins des Martiniquais. Martinique, comment produire pour se nourrir ? C'est un reportage signé Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Les importations occupent une part majeure dans l'alimentation des Martiniquais. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
C'est d'abord le produit d'une histoire, celle de la colonisation, qui a spécialisé le territoire, vous le disiez, dans les cultures dédiées à l'export et à la métropole. La Martinique a donc dû se mettre à importer de quoi s'alimenter, puisque les terres n'étaient plus utilisées pour ça. Sans oublier que la culture de la banane, c'est aussi celle qui a généralisé l'utilisation d'un insecticide puissant, la chlordécone. Cela a causé une contamination généralisée, durable, des écosystèmes et des effets délétères sur la santé humaine. C'est donc ce contexte qu'il faut aussi avoir en tête quand on regarde la situation actuelle des produits importés, qui sont chers, transformés, voire ultra transformés, très sucrés, ce qui pose des problèmes de santé, ou alors des fruits et légumes importés souvent avec beaucoup de pesticides pour tenir le temps du trajet. Alors pour réduire les importations, il faut donc que la Martinique redevienne capable de produire des fruits et légumes et des variétés adaptées au climat tropical, car aujourd'hui elle produit peu en raison du manque de soutien financier à ce modèle, de problèmes de foncier et comme ailleurs, de l'effondrement du nombre d'agriculteurs. Il faut de la production donc, mais aussi des consommateurs prêts à l'acheter. Or, beaucoup ont profondément changé leurs habitudes et se sont aussi finalement habitués à cette alimentation importée.
Sandrine Fréguin-Grèche est notre invitée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et géographe, chercheuse au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes de passage à Paris et c'est tant mieux pour nous, mais vous travaillez en Martinique, où nous allons tout de suite nous retrouver grâce au reportage de Catherine Pétillon qui nous emmène d'abord sur un marché de Fort-de-France.
D'accord, et dis-moi, il coûte combien ton cuir? 3 euros. Ça marche, je te prends ça.
Un chien?
Ouais, un seul. Je te remercie, c'est la peine de l'emballer.
Ouais.
Je le garde.
Bonjour madame.
Bonjour.
Je travaille à la radio. Est-ce que je peux vous poser quelques petites questions? Je fais un reportage sur l'alimentation. Et du coup, je me demandais où vous faites vos courses. Surtout ici, au marché, là, comme aujourd'hui ?
Au marché, auprès d'agriculteurs directement, un peu partout, en évitant le plus possible les supermarchés. Depuis les événements récents, il existe beaucoup de groupes WhatsApp qui proposent des producteurs locaux, du marché de proximité. En fait, ce sont des groupes qui répertorient, malheureusement, ce n'est pas fait à très grande échelle, mais en fait, qui répertorient des producteurs et des acheteurs.
Donc ils se retrouvent sur ces groupes. Ils proposent également des points de récupération. Ils peuvent, sur les parkings, il y a des personnes qui livrent sur place, enfin, il y a un peu partout. Moi, je n'étais pas sensibilisée à cela. C'est vrai qu'un peu pour soutenir le mouvement, beaucoup pour soutenir le mouvement, et aussi parce que finalement on prend conscience de certaines choses, je m'y suis intéressée. Maintenant, je procède ainsi. Je reconnais aussi, ça a une dimension politique. C'est vraiment du soutien et puis c'est une prise de conscience qui aujourd'hui me fait m'éloigner le plus possible des supermarchés. Les mobilisations, le fait de nous avoir obligés à ouvrir les yeux sur la vie chère que tout le monde déplorait, mais c'était juste un constat. On en souffrait, mais il n'y avait pas grand-chose qui était fait pour pouvoir dire « bon ben on veut que les choses changent ». Aujourd'hui, on a vu que certaines personnes ont payé de leur liberté, ont été tellement engagées qu'on ne peut pas se dire « ça a été fait pour rien » et puis on laisse tomber et puis on retourne dans les supermarchés. Non, il y a quelque chose à continuer. Alors, c'est peut-être pas dans le même... Ça prend pas la même forme, c'est pas de la mobilisation dans la rue, mais c'est vraiment un engagement personnel.
Allez, gros. Ah, c'est ça, ok. 3,72€.
Tiens. Tu peux garder. Je t'en prie, à bientôt.
Et vous avez acheté quoi aujourd'hui?
Eh bien, les bananes, puisqu'il y avait la foire à la banane. Un fruit à pain que je vais offrir. Et puis, je vais chercher un dashi.
L'une des pistes pour baisser les prix, c'est de renforcer la part locale de ce qui est vendu et consommé. Encore faut-il que les acheteurs en aient envie, qu'ils soient prêts à payer, et avant toute chose, qu'il y ait assez de production disponible et assez d'agriculteurs.
Oui, alors, moi c'est Émile Ozali, donc je suis agriculteur depuis 1983. Donc je suis installé ici sur 16 hectares.
Et là, donc, on entend, il y a des enfants, parce que vous faites visiter la ferme ici.
Voilà, je fais visiter la ferme. Mon style de culture, c'est la diversification. Au départ, on m'a proposé la canne ou la banane.
Qui vous
c'était
a proposé
des monocultures. Ça et bien, ce sont les grosses compagnies qui font de la banane et de la canne, qui sont venues me voir. En réalité, j'ai pu faire la diversification, parce qu'à l'époque, ce type de culture n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient un peu de jardin créole à droite à gauche. C'était des cultivateurs, on appelait ça. Et qui alimentait les marchés. Mais au fil du temps, ces gens-là disparaissaient, quoi. Et donc, j'ai eu ce terrain-là, qui faisait 16 hectares. Et là, je me suis lancé vraiment dans la diversification. On va dire le grand jardin créole. Parce qu'on vit dans un pays où les grandes cultures d'exportation dominent. Et puis, l'alimentation androgène, qu'on va dire, n'existe pas, quoi. Donc, il fallait vraiment que cette génération, on a décidé de nous lancer. Donc, c'était pour nous nouveau. Sous des grandes parcelles, on a commis certainement beaucoup d'erreurs, mais on a eu le mérite de tracer le chemin. Moi, je suis militant, je veux effectivement nourrir la population.
Et qui partait de quel...
partait de constat, parce qu'on constatait que sous les marchés, les quantités diminuaient, parce que les cultivateurs, dont je vous appelle, les gens qui faisaient un peu de jardin créole, prenaient de l'âge, et il n'y avait pas une relève assurée. Mais la Chambre d'agriculture, je présume, et la DAF, ont mis en place... pour la première fois, un brevet professionnel agricole dont l'objectif était effectivement de permettre cette diversification.
Et pourtant, là, on est 45 ans plus tard et finalement, cette question de la capacité à nourrir la population, de l'autonomie alimentaire, elle est toujours sur la table ?
Oui, elle est toujours sur la table. C'est vrai qu'on avait atteint l'apogée de l'agriculture à l'époque. On était à 80 000 tonnes. Aujourd'hui, on est descendu à 20 000. Vous voyez, on a complètement chuté. Beaucoup d'agriculteurs de ma génération, on a pris de l'âge. Mais je pense qu'on n'a pas su assurer la relève. C'est ça aussi. On a raté la case de la transmission. Voilà. C'est ça qui a été le problème.
Donc là...
Ça, c'est la production de goyave. Ce sont tous les arbres fruitiers divers. À droite, là, on a tout ce qui est maraîcher.
Ça, c'est quoi?
Ça, c'est le jacques. Ça, c'est des fruits que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et que, justement, on essaie de... un petit peu... d'habituer les gens à consommer ces fruits-là, de les apprivoiser pour qu'ils aient une large gamme de produits de façon qu'ils puissent effectivement avoir accès à plus de nourriture, quoi, en diversifiant. C'est pour ça que même moi, j'ai mis de l'agrotourisme pour faire visiter. Parce que moi, les visites chez moi, c'est pour vraiment conscientiser les gens. montrer ce qu'on fait, faire goûter les fruits, montrer comment on tient un arbre, montrer nos pratiques, quoi.
Relancer une agriculture diversifiée, c'est un vrai changement d'orientation pour une île longtemps dédiée aux cultures d'exportation, la banane et la canne à sucre. Sur les 24 000 hectares de surface agricole utilisée, seuls 2 000 sont aujourd'hui occupés par des exploitations en diversification. Et ça, c'est le produit d'une histoire, rappelle Roselyne Joachin. Elle est sous-directrice à la Chambre d'agriculture de Martinique.
Le modèle économique, celui qui consisterait à faire produire de la production locale, ce n'est pas celui qui a été soutenu. Ce qui a été véritablement soutenu pendant des années, c'est le modèle de l'export qui avait toutes ses raisons d'être, hein, mais qui montre aujourd'hui les limites dans un système où on est obligé de s'éloigner des modèles intensifs. Donc nous, au niveau de la Chambre, on s'est questionné sur le modèle à développer qui, selon nous, serait plus un modèle qui intègre davantage l'ensemble des exploitations dans cet objectif d'autonomie alimentaire qui est apparu comme un enjeu majeur lors des mouvements de la population depuis 2009. Hein. Ça veut dire qu'un pays qui finalement importe tout ce qu'elle mange, elle bénéficie certes d'une forme d'autonomie alimentaire puisqu'elle assure l'alimentation de sa population, mais elle n'est pas en sécurité alimentaire dans le cas de catastrophes, dans le cas d'événements ne dépendant pas de sa volonté, d'autant qu'on est sur une île. Donc se pose véritablement la question de l'augmentation de nos capacités de production locale dans le volume de la production totale. Et à ce moment-là, réduire la part d'exportation. Aujourd'hui, on est 80-20. On se dit que dans un objectif à moyen terme, on pourrait descendre faire du 50-50, voire du 60-40. Quoi. Bon, c'est peut-être utopique, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut imaginer parce que en Martinique, il y a un vrai potentiel.
Quelles actions, vous, à la Chambre d'agriculture, vous mettez en place pour aller vers cet objectif de renforcement de la production locale?
Alors, il y a déjà le repérage de toutes ces exploitations, des potentialités de toutes ces exploitations-là, les accompagner dans un changement de modèle pour mettre en place des pratiques agroécologiques, le paillage, l'utilisation de la matière organique, la mise en place de systèmes agroécologiques. Donc, nous, on les accompagne, on les aide à redessiner leur exploitation. Donc, c'est pour ça que notre cible, c'est d'abord restaurer la capacité de production des exploitations.
Réorienter le développement agricole et valoriser le potentiel agroécologique de l'île, c'est désormais le cœur de la stratégie portée par la collectivité territoriale de Martinique et la Chambre d'agriculture. L'agriculture à petite échelle, c'est la principale composante du tissu agricole. 70% des exploitations font moins de 5 hectares. C'est le cas de celle de Jean-François Panon.
Donc on est sur l'exploitation ici, donc j'ouvre un peu mon activité à l'agritourisme, donc il y a un sentier saveur, qui a toutes les saveurs qu'on a mis un peu de côté, donc on peut trouver des petites goyaves locales, des bois grillés, des baies sauvages de mon enfance, et tout au long du sentier on a de l'ananas en basse trace, en moyenne trace on a des papayes, et en haute trace on a des grands arbres comme des manguiers, des fruits à pain, des choses comme ça. Je l'ai construit comme un jardin créole, c'est un jardin qu'on a pris chez soi, dans lequel il y a tout. C'est un petit modèle qu'on avait à la campagne, près des maisons. On avait des animaux, donc on avait tout ce qui est moutons, poules, coqs et tout. Et il y avait toujours le jardin à côté. Et c'est tout ce truc-là qui nous faisait vivre. Donc on pouvait tuer des poulets, tuer un coq, enfin, et manger les fruits de ce qu'on produit. Donc à grande échelle, enfin, sur un hectare, je produis la même chose. Tout est mélangé, c'est toujours pour rester dans ce truc où on a toujours tout. Et comme ça a fonctionné pour nous, et lorsqu'on cuisine pour soi, donc j'ai voulu comme reprendre ce type de modèle de jardin créole à grande échelle, tout en visant à ce que ce soit productif et que je puisse vivre avec.
Ce sont des petits fruits. Tous les fruits qui sont verts et acides sont potentiellement des fruits très riches en vitamine C et potentiellement transformables en sirop, en liqueur, en confiture et en jus et en glace.
Et vous voyez comme ça, le développement de jardins comme ça, là, ça se développe?
Oui, il y en a pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui décident de modifier complètement leur exploitation qui était a priori en monoculture, soit en maraîchage, soit en banane créole, et qui trouvent un intérêt à planter pratiquement toutes les variétés, les espèces qu'on peut consommer en fruits ou en légumes. et qui développe à la fois le côté pédagogique pour la diversité alimentaire, pouvoir montrer aux enfants qu'on peut manger des choses du pays et en plus qui permettent de ne pas être esclaves de la saisonnalité. Donc des petites exploitations de ce modèle-là sont vraiment importantes dans la question de la réhabilitation du manger local et dans les questions liées à ce qu'ils appellent les PAT, les projets alimentaires territoriaux. Les communes et les territoires ont intérêt à intégrer ce type d'exploitation dans la démarche de la connaissance et de l'appropriation et du goût. Il y a sûrement sans doute des choses qu'on ne connaît plus. Par exemple, quand on parle de la pomme cannelle, c'est un fruit qui est devenu rare aussi. On s'est détourné pour des fruits qui faisaient déjà plus... parce qu'il ne faut pas oublier aussi le contexte. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on nous européanise, où on nous dit que le modèle, il vient des pays développés, c'est l'Europe. Donc, il faut manger des pommes, il faut manger des raisins, il faut manger... Et même les gens ne mangent pas de bananes. Des fois, ils disent « Ah non, je ne veux pas de bananes, c'est d'ici. » Donc, le fait de l'alimentation, c'est aussi le modèle qu'on a voulu nous inculquer. De la même manière qu'on s'est éloigné de notre créole, par exemple, eh bien, on nous a dit qu'il faut parler français, il faut être français. On n'a rien contre le fait qu'il y ait une culture qui, historiquement, a occupé l'espace. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, on ne va pas refaire l'histoire là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur nos spécificités, elles ont souvent, aussi bien alimentaires que culturelles, elles ont eu tendance à être bannies, à être déconstruites. Et aujourd'hui, peut-être que c'est une prise de conscience aussi hein, de la part de certains que de dire « Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit que... je pouvais remplacer la pomme par deux tranches de mangue, par exemple. » Et c'est ce travail qu'on doit louer pour certains agriculteurs qui l'ont compris et qui le font.
Ici, on a... Là, c'est de la banane corde où on faisait des cordes avant. Avec le tronc, il y a une façon de faire.
Soutenir donc, mais avec quels moyens ? La Martinique fait partie de ces territoires éloignés que l'Europe appelle les régions ultra-périphériques. La politique agricole commune y est distribuée via un dispositif nommé POSEI. Or, il bénéficie encore à 80% à des modèles de culture intensive et non pas aux petits agriculteurs comme Jean-Marc Marcus.
J'ai mis 10 ans à trouver mon premier terrain. J'ai acheté ce terrain, j'ai commencé à développer progressivement. Je suis sur 4 hectares ici. On a commencé par un verger très diversifié, en tout cas. Essayer de faire de l'agriculture propre. On a commencé beaucoup par la permaculture, qui n'est pas facile par rapport à... On a un sol très argileux, donc qui n'est pas facile à ramener un sol comme ça, surtout quand c'est en pente. Très vite, il n'y a pas de cours d'eau sur ce terrain, donc il a fallu réfléchir et trouver une agriculture qui pourrait soutenir les autres et qui est rentable. De là est venue l'aquaponie.
C'est quoi ?
L'aquaponie, c'est une culture qu'on fait avec un élevage de poissons. Et l'eau des poissons sert à alimenter les cultures. Donc là, on rentre sur la serre. Là, devant nous, on a des bacs qui ont été fabriqués en résine parce que je ne voulais pas mettre de polystyrène parce que ça finit par s'effriter et que ça retourne aux poissons. Donc, on essaie de penser à tout en restant dans une logique de truc sain et propre. L'avantage de ce système aujourd'hui de l'aquaponie que j'affectionne particulièrement, c'est qu'on est sûr de ce qu'on mange. C'est sûr, s'il y a un problème dans l'eau, les poissons ils vont mourir. Si je fais du traitement, mes poissons ils vont mourir. Donc il faut juste maîtriser ce qu'on fait pour arriver à un résultat final où on sait ce qu'on mange.
Est-ce que c'est cette eau-là des laitues qui repart aux poissons après ?
Voilà. Ça arrive par là. On voit l'arrivée. Et ça repart par gravité.
Ici, c'était déjà un terrain agricole avant ?
Ici, c'était un terrain agricole qui était planté en bananes. Et quand je suis arrivé, c'était abandonné déjà depuis plus de 4 ans. J'ai dû tout reprendre. Tout ce que vous voyez, les traces et les constructions et tout, c'était pas là. Il n'y avait rien de tout ça.
Comment s'est posée aussi la question de la qualité des sols, de la pollution des sols ? Est-ce que vous avez eu aussi des sujets avec le chlordécone ici aussi ?
Au fait, aujourd'hui, quand on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, la première chose à faire, c'est les analyses de sol, de chlordécone et puis physico-chimique. Pour connaître les éléments du sol, pour savoir qu'est-ce qu'il faut apporter, qu'est-ce qu'il ne faut pas apporter. On ne va pas arriver à mettre de l'engrais comme ça sans savoir ce qui manque dans notre sol. Donc tout ça, ça a été fait, tout ça, ça a été contrôlé. Bon, j'ai un taux très bas de chlordécone, donc je suis quand même obligé de faire très attention à ce que je plante.
Donc j'évite les racines, j'évite certaines choses. J'ai quand même tenté, hein, je suis un curieux, donc j'ai fait de la patate douce que j'ai envoyée au labo en métropole, où ils ont trouvé zéro trace de chlordécone. Donc on a fait aussi des pondeuses juste pour la consommation. J'ai envoyé des œufs aussi en métropole, zéro chlordécone. Mais pourtant, on m'a détecté un taux de chlordécone quand même limite avec le seuil.
Quand on teste ça, on teste quoi en fait? Ce qui reste des usages passés dans le sol?
Au fait, ce qu'on teste, c'est savoir si on a un sol super pollué, si on a un sol moins pollué ou si on a un sol sain. C'est un parcours obligatoire parce qu'on ne peut pas planter pour revendre à des gens et ne pas savoir ce qu'on a dans notre sol. Donc d'où pourquoi aussi aujourd'hui ici on fait plusieurs types d'agriculture. On fait du hors-sol, on fait du plein champ. Ça nous permet de varier et puis d'être un peu plus sûr sur des produits qu'on ne sera pas sûr en pleine terre. On les met en hors-sol, en aquaponie, etc.
Là par exemple, quand on teste votre sol ici dans votre exploitation, que en tout cas, à certains endroits, il y a des traces de chlordécone ou un seuil supérieur au seuil autorisé. Ouais. Ça veut dire que dans ces endroits-là, vous n'avez pas le droit de cultiver du tout?
Non, il y a des cultures qui passent en... Aujourd'hui, il y a même des agriculteurs qui sont bio sur des sols chlordéconés. Ça dépend de la culture, ça dépend du mode de culture. Et aujourd'hui, le problème avec le chlordécone, c'est surtout concernant les animaux célium, le fourrage. Et concernant les agriculteurs en production, c'est surtout les racines. C'est ceux qui sont dans le sol.
On a ces canards, on a 2-3 canards.
Ça fait partie d'un élément constant. On ne peut pas faire sans l'existence de cette pollution des sols.
Samuel Battès, économiste à l'Université des Antilles.
Ça a une incidence qui est forte dans la mesure où ça réduit les perspectives de rentabilité, très clairement. Ça limite les possibilités de choix d'exploitation selon l'endroit où je suis situé, le type de sol que j'ai et le degré de contaminant que j'ai, ou même l'incertitude que j'ai sur cette contamination, je serais amené à faire des choix, à renoncer à produire un certain nombre de productions qui seraient peut-être plus rentables. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est finalement le consommateur. Parce que même si on fait l'effort de produire quelque chose de sain, il n'est pas dit que le consommateur adhère. C'est une question de coût économique et puis de confiance, en fait. Fondamentalement, il y a un problème de confiance. Vous avez des gens qui préfèrent manger importé tout le temps. Viande importée, fruits importés, voilà, tout le temps. Ils accordent plus de confiance à la nourriture importée parce qu'ils se disent que la nourriture importée n'est pas impactée par la chlordécone. Sauf que, en fait, il n'y a pas que la chlordécone quand même. Voilà. Je dirais qu'il y a différents types de consommateurs. Il y a le consommateur attaché à l'identité culturelle de ce qu'il consomme. Il ne va pas être tenté, on va dire, par une production venant de l'extérieur parce qu'il a intégré le fait qu'on peut parfaitement manger sainement sur ce territoire en dépit de la pollution au chlordécone. Il y a un autre type à l'opposé de consommateur qui est le consommateur qui est en situation de défiance totale, défiance de tout ce qui est dit sur la qualité sanitaire de ce qui est produit localement, défiance sur les normes sanitaires elles-mêmes. Et donc du coup, ce consommateur, il va se détourner, il s'est déjà détourné vers un autre régime alimentaire qui est complètement extraverti par rapport au territoire. Ça renforce en tout cas les logiques d'importation et de réduction d'autonomie alimentaire quelque part. Et puis entre les deux, on a toute une frange de consommateurs qui sont en transition dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui avant étaient un peu consommés local et qui se transitent progressivement vers consommer plus importé. Et inversement, vous avez le consommateur qui va avoir un réveil, on va dire, écologique, en se disant que, en fait, je ne peux pas consommer importé parce que fondamentalement, je suis à l'encontre même de tous les principes écologiques. Et en même temps, je sens bien que ce n'est pas tout ce qui est produit sur mon territoire qui est à jeter. Et donc, du coup, on a les deux mouvements qui s'opèrent. Mais la tendance qu'on observe quand même, c'est que majoritairement, on a plutôt le mouvement qui va vers délaisser la consommation de produits locaux pour aller vers la consommation de produits importés, sachant que fondamentalement, il y a la question économique derrière qui se rajoute avec la question du pouvoir d'achat, de la vie chère, et qui fait que il y a toute une frange de la population qui n'a pas cette possibilité de se nourrir sainement, en fait, très clairement.
Qu'avancer en désordre là, sans fête là, en manière au déo. En mi-temps peut-être si,
en classique et bagaille chaud, manière odeo.
En Martinique, l'enjeu, c'est de renforcer la production, mais aussi de la structurer. Les dizaines de petits agriculteurs ont moins de poids que ceux des grandes filières d'export rassemblées au sein d'organisations professionnelles. Comment faire pour que l'agriculture locale arrive jusqu'aux consommateurs?
On fait les choux chinois là, et les poulets prônes. Après, on va devoir.
Les pentes abruptes où se trouvent les parcelles de Léontis Gras dévalent vers la mer des Caraïbes. Installé dans le nord de la Martinique, il est l'un des premiers à s'être converti en bio.
Ben ici, vous êtes au Mont des Cadets. C'est un quartier de la commune de Fossenny. Et son altitude est de 750 mètres d'altitude. Donc, le point fort ici, c'est l'agriculture de montagne. J'ai intégré les gîtes, j'ai intégré les serres, j'ai intégré la formation, la transmission du savoir-faire. Parce que tout ce que nous avons comme héritage, ce sont des terres difficiles, ce sont des terres pas viables. La Martinique, c'est une île volcanique. Donc nous n'avons que des montagnes, que des terres difficiles, que des endroits arides. Donc le désenclavement est la priorité des fermes de montagne, où les belles terres y sont encore.
Il faudrait quoi ?
Ben, il faudrait des machines adaptées, il faudrait des outils de désenclavement adaptés.
Parce que là, aujourd'hui, par exemple, autour d'ici, il y a beaucoup de terres qui pourraient être cultivées et qui ne le sont pas.
Il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis aujourd'hui, qui sont partis en friche. Et ça va vite, parce que la nature a horreur du vide. Une fois que vous avez abandonné, la nature prend la place. Et après, ce n'est plus possible. Tout ce qu'ils produisent en matière agricole sont des micro-fermes. Des petites fermes d'un hectare, de 2 hectares, 2 hectares, qui n'ont pas d'ouvriers, qui sont leur propre patron. Le désenclavement permet d'accéder aux parcelles rapides. Si quelqu'un doit travailler son sol, il doit être dans une misère permanente, ça n'a pas de sens, il ne continue pas. Il n'y a pas de reprise des enfants, parce qu'ils voient que la difficulté. Il faut aujourd'hui, ma fille reprend parce qu'il y a des gîtes, elle reprend parce qu'il y a des serres, elle reprend parce qu'il y a une beauté, d'accord. S'il n'y a pas ça, il ne reprendra pas du tout, elle ne viendra pas, elle fait autre chose. Et c'était partout en friche.
Les 2 cagettes vertes.
J'ai plus 2 cagettes vertes, mais...
Non, c'est bon.
Il doit avoir toi là-dedans, hein.
Une partie de son exploitation est dédiée à une association, le Domaine de la Chabée, créée en 2017 pour promouvoir l'agriculture bio. Oriane Sinarbieux est la chargée de projet de l'association. Ce jour-là, c'est elle qui va vendre les produits sur un marché de producteurs à Chelcher.
Il
n'est
pas lavé, non ? Non, il n'est pas lavé. Au sein de l'association, avec les producteurs bio de l'association, on a un planning de culture où on sait qui fait quoi, qui va produire quoi, où on se répartit les productions déjà en fonction du terrain, de leur zone pédoclimatique, et puis aussi en fonction de la demande qu'on a, pour ne pas qu'on produise tous de la banane jaune. Et donc ça permet d'être force de proposition dans les cantines centrales, au restaurant, pour vraiment pouvoir produire et fournir de la production bio.
C'est-à-dire que vous, l'association, centralise ces productions pour vendre à des acteurs ?
Voilà, c'est ça. On centralise donc l'information donc pour qu'on va mettre sur le planning de culture mutualisé. Et ensuite, on récupère la production et on livre à nos différents clients.
C'est quoi l'intérêt de ça ?
L'intérêt de ça, donc déjà, de fournir la production saine et locale. Et donc ça, c'est pour tout public. Et puis pour le producteur même, de savoir qu'il va y avoir un débouché.
Et de l'autre côté, les gens qui vous achètent, eux, ça les sécurise aussi ?
Voilà, c'est ça, des deux côtés. Donc ça les sécurise. Ils sauront qu'ils pourront avoir régulièrement des produits bio et locaux.
Ça te fait 71,43.
Tous les samedis, dès 5h du matin, les clients affluent à Sainte-Marie. C'est là que se tient depuis 25 ans le marché agricole nord-atlantique, le MANA comme on l'appelle ici. C'est un marché particulier avec un fonctionnement unique en Martinique, car les agriculteurs ont décidé de s'unir en association et de vendre en commun. Magloire Marcelin est le président du MANA.
Donc on a Yvette, c'est, chez nous on dit c'est la reine des épices parce que souvent tout ce que vous avez besoin pour épices, pour votre viande, pour vos gâteaux, l'essence de vanille, les trucs comme ça, c'est chez elle, la cannelle.
Donc là on arrive dans la partie agricole et là du coup c'est des gens qui tiennent la caisse bénévolement là, c'est comment, c'est les producteurs. Donc,
c'est ça aussi, on a des producteurs qui se transforment en caissiers, L'avantage de l'association, pendant qu'il est en caisse, ses produits sont en vente, en rayon, et les autres producteurs sont responsables de vendre ses produits.
Ah, c'est 9,80 €.
Moi, c'est Gilbert, mon filet. Je fais un peu de maraîcher, un peu de vivrier, et puis j'ai des animaux.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste, adhérer au MANA?
Le fonctionnement, c'est la caisse commune. On arrive le matin, on fait la pesée, tout le monde fait une pesée. Le produit est mélangé à tous les autres produits et je vends tout ce qui est sur la surface.
Vous avez apporté quoi ce matin?
Alors, ce matin, j'ai eu chou paumé, thé, salade.
Merci ma chérie et à bientôt.
À bientôt. Comment elle fonctionne cette caisse commune?
On a environ 17 adhérents en fruits et légumes. Et donc le matin, quand ils arrivent, il y a une pesée. Chaque produit a une pesée. Et il y a aussi la pesée à la fin. Les gens sont payés au prorata de ce qui a été vendu. Et la caisse commune, ça veut dire que les clients arrivent comme dans un libre service, ils se servent et ils passent à la caisse normalement. Et le MANA, l'organisation, prend 10%, c'est pour les frais d'organisation de chaque marché.
Pourquoi vous avez décidé de vous mettre en commun?
Vous arrivez au marché avec votre cabas. Si vous trouvez 35-40 produits mis en commun, vous allez remplir votre cabas. Parce que si vous me trouvez tout seul avec 3 produits, vous allez prendre 2 produits. Moi, je vais perdre toute ma journée pour 3 produits. Parce que si vous arrivez dans un marché où il y a 35-40 produits, je suis sûr que vous allez laisser 25 €. Donc, c'est une force commerciale. C'est une force commerciale pour l'adhérent parce que au lieu d'avoir son petit stand avec moi, par exemple, mes concombres et mes giromons, sont à côté de d'autres légumes et le client va se servir en légumes, en giromons, en concombres et va faire un bon panier d'un seul coup. Et il n'y a pas de négociation, tout, les prix sont affichés et les clients se servent et il n'y a pas de souci. Le bémol, le petit négatif, c'est qu'on a un seul jour de vente pour l'instant. Par exemple, quand vous faites de la tomate, des courgettes, ça se récolte 3 fois dans la semaine. Donc, il faut quand même arriver à vendre à côté.
Et qu'est-ce que, à vous, personnellement, ça apporte de faire partie de ce marché?
Eh bien, j'ai découvert une autre façon de commercialiser, le contact du producteur au consommateur. Parce que moi, je livrais directement en coopérative avant. À la fin du marché, je rentre avec mon enveloppe. Je suis payé pratiquement le jour même. Et c'est la différence où quand je livrais en coopérative, j'étais payé 2 mois, 3 mois après sans savoir mon prix de vente. Et donc, ce n'était pas évident. Donc, petit producteur, c'est très bien d'avoir son enveloppe, son argent tout de suite parce que c'est ça qui fait la trésorerie.
Alors, il y a quoi sur vos étals aujourd'hui?
Donc, de plus en plus, on a la farine de manioc, on a les noix de coco, le gingembre, vraiment le gingembre local, hein, c'est un petit gingembre. Le piment végétarien qui est vendu pratiquement 10 € moins cher que les supermarchés, les noix de cola, les choux paumés.
Le groupe Bernard Ayotte, GBH, numéro 1 de la distribution aux Antilles, est sous le feu des critiques depuis les mobilisations contre la vie chère. Il fait l'objet de plusieurs plaintes et enquêtes, notamment sur les marges pratiquées. Dans ces magasins Carrefour, seulement un quart de la marchandise vendue est achetée localement. Christophe Bermond, le directeur de Carrefour Martinique, l'assure, il serait prêt à faire plus.
Tout est question de structuration de filière. Il faut bien comprendre qu'aucun distributeur n'a comme intérêt premier de conserver un éloignement de ses sources d'approvisionnement. Parce que c'est compliqué, parce que c'est un bateau par semaine, c'est subir ce qui se passe actuellement, des grèves perlées sur les ports de la France hexagonale. Donc tout ça, ça entraîne des retards, des complications de gestion. Ça oblige le distributeur à stocker à minima pour une semaine, lorsque le magasin en France hexagonale peut s'approvisionner ce qu'on appelle en A pour B du jour pour le lendemain, le magasin martiniquais, il subit l'importation. Donc le trajet consistant à acheminer la marchandise de port d'Europe ou de France hexagonale vers la Martinique n'est pas un trajet souhaitable, entre guillemets. Économiquement, ça n'est pas le choix que nous ferions. La réalité, c'est que 85% des produits que nous consommons sont des produits issus de l'importation. Donc pour pouvoir consommer plus localement, il faudrait bien évidemment augmenter ce volume de production locale, mais également faire en sorte qu'il y ait des organes, une structuration des filières, notamment en fruits et légumes, pour qu'on puisse mettre en adéquation le besoin des distributeurs et également la capacité de production des producteurs. Il faut que les interprofessions qui pourraient se mettre en place puissent être capables d'ordonnancer la production locale, c'est-à-dire de faire en sorte que les agriculteurs produisent non pas ce qu'ils ont la possibilité de produire ou ce qui leur semble opportun à un instant T, mais produisent par rapport à un besoin.
Ça veut dire que là, vous vous dites, je ne sais pas, donc ce serait trop risqué de m'approvisionner là ?
Non, ça n'est pas trop risqué de m'approvisionner. C'est que je sais que je ferai face à un moment ou à un autre à une insuffisance de satisfaction de mon besoin. Donc je prendrai ce qui sera disponible. Lorsque ce besoin ne pourra être satisfait, nous passons par des grossistes importateurs qui existent également dans le domaine des fruits et légumes. Sauf que lorsque vous êtes dans une situation où cet écart n'est pas correctement dimensionné, l'importateur grossiste va peut-être commander plus que le besoin réel. Et dans ce cas-là, il aura besoin de découler sa production. Et dans ce cas précis, la marchandise importée sera en concurrence avec la marchandise produite localement. Et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. Bien évidemment, vous savez, l'agriculture, surtout dans des climats comme les nôtres, est faite du moins d'aléas. On voit, ça fait 4 mois qu'il pleut à la Martinique, ça affecte bien évidemment toutes les cultures en plein champ. Donc lorsqu'il y a ces aléas, il y a une baisse de la production et il peut arriver, et ça c'est tout à fait normal, que cette baisse de production soit compensée par une importation, puisqu'on n'a pas la capacité à ce moment-là à produire suffisamment. Sauf que ça doit être réservé à la partie aléa. Ça ne doit pas être en fait la variable d'ajustement courante et du fonctionnement courant, ce qui est malheureusement beaucoup trop le cas, en tout cas à la Martinique aujourd'hui.
Alors, donc là on va rentrer dans l'usine originelle, qui est faite de pierre de lave, hein, on voit ça, qui a survécu à tous les cyclones, tous les tremblements de terre, et qui a été construit par les anciens. Et donc là, on va avoir la ligne de production de confiture et la ligne de production de jus de fruits.
L'entreprise Denel est l'un des transformateurs historiques de l'île. C'est dans son usine, là où les fruits sont transformés en jus et en confiture, que je rejoins Philippe Bourche, le directeur.
Donc là, ici, on est en fait dans la voie d'arrivée des fruits. Donc, vous avez vu tous les casiers qui sont là. On attend que les agriculteurs nous les amènent. En fait, ils arrivent avec des pick-up. Leurs pick-up sont chargés de fruits, de casiers comme ça, qui sont des fruits qui sont récoltés dans les champs. Et donc, ces fruits, en fait, ils vont être récupérés. Et on en attend d'en avoir une certaine quantité. Donc, ceux-là, on va les garder maximum 4-5 jours en froid positif. Et après, on va les passer dans le processus industriel tel que vous le voyez là.
Ici, vous faites des jus de fruits, des confitures. Vous travaillez avec la production locale ?
Oui, oui, on peut dire qu'on le fait. Ce n'est pas si facile que ça, parce que c'est quelque chose qui est fait de longue haleine. On a une fierté, nous, ici, c'est de faire en sorte qu'on puisse dire qu'on est autosuffisant en Goyave. Il n'y a pas beaucoup de fruits sur lesquels on peut être autosuffisant. Ça a duré 30 ans. C'est passé par des relations de confiance avec des agriculteurs. C'est passé aussi avec des engagements sur des volumes, sur des prix. Et donc, aujourd'hui, on est même devenu un petit peu exportateur de purée de Goyave, puisque aujourd'hui, on envoie cette purée de Goyave de Martinique vers des usines, par exemple, qui peuvent exister en métropole, sur lesquelles ils vont faire des jus d'origine Martinique. Donc, voilà.
Vous, ici à Denel, vous travaillez exclusivement avec des fruits produits ici en Martinique ?
Non. Si je prends en valeur, on a la moitié en valeur de nos achats de matières premières qui est faite à la Martinique. Alors l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Bon, dans les calculs que l'on a fait, on pense qu'on peut peut-être arriver à 60-65% à peu près.
C'est quoi les fruits que vous trouvez localement ? C'est quoi ceux que vous importez ?
Alors on travaille sur, on va dire, 23 fruits différents. Alors on trouve en totalité ou en quasi-totalité aujourd'hui de la goyave, de la banane et de la prune de citerre. Ça, c'est très facile. Après, pour nos confitures, on va arriver aussi à trouver, puisque les volumes nécessaires ne sont pas forcément très très importants, on va travailler par exemple de la papaye, on peut travailler du piment végétarien, un petit peu de mangue également. Mais dès qu'on veut commencer à augmenter les ingrédients dans les jus, là on a des problèmes parce que les quantités nécessaires pour faire du jus sont très importantes. Et donc, pour le moment, on commence d'abord avoir des apports. Je prends l'ananas, par exemple. L'ananas, je n'ai pas assez d'ananas pour faire un jus complètement à base d'ananas. Donc, on importe de l'ananas, mais on récupère aussi de l'ananas des agriculteurs. Nous, aujourd'hui, on a des débouchés qui existent sur les jus, notamment. Mais bien évidemment, on est quand même dans un contexte de vie chère dans lequel il y a une limite quand même qui est le porte-monnaie du consommateur. Donc aujourd'hui, le problème, c'est sommes-nous capables de switcher à un moment ou à un autre d'une importation qui vient de pays d'à côté pour une production locale. Sur certains produits, oui, c'est possible. Sur d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, notamment ceux dans lesquels il y a un très gros niveau de main-d'œuvre, parce que le déséquilibre en termes de coûts de main-d'œuvre, il est phénoménal entre des pays d'Amérique latine qui sont pas loin de chez nous et les coûts qui existent ici en Martinique. Et l'idée, c'est pas non plus d'envoyer les agriculteurs dans des murs. Je vais prendre un exemple très simple. On aurait pu, par exemple, s'intéresser à un fruit comme le corossol, qui pousse relativement bien ici, sauf que on a eu quelques concurrents qui se sont lancés dans le corossol en jus de fruits ou en glace. Ça a duré un an et demi. Et au bout d'un an et demi, la passion du consommateur pour le corossol s'est complètement éteinte. Donc il n'y avait plus de débouchés pour le corossol. Donc l'idée, c'est qu'on lance un produit sur le jus et la confiture. On le développe au départ soit avec des produits qui viennent de filières qui sont déjà existantes. Si ces filières ne sont pas existantes, on va importer potentiellement un certain nombre de purées. Et si le produit tient dans le temps, on essaye d'inciter les agriculteurs à s'orienter pour créer des filières, en fait. On veut pas non plus que tout le monde se lance dans un fruit et finalement qu'on arrive à un moment avec une incapacité de les écouler. Encore faut-il qu'on arrive à fonctionner dans un univers structuré. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qu'on a actuellement, c'est comment dans la diversification, on arrive à faire en sorte d'avoir une interprofession qui regroupe un certain nombre de personnes qui soient capables de mettre en place ce modèle-là.
Émile Rosalie fait partie des agriculteurs qui fournissent des nems.
Alors, ce qu'on peut dire le plus, c'est la Royal, parce qu'on a un contrat avec Royal, c'est l'usine d'Enel, qu'on appelle d'Enel, parce qu'au bout, on a une personne qui nous fait une demande, donc il y a un contrat à appliquer, et donc ça nous permet de mieux gérer. Ceci étant dit, le seul souci qu'on a, c'est sur le prix, qui ne change pas depuis des années. Ça aurait été bien qu'on puisse calculer le coût, et qu'on puisse en discuter, et qu'on trouve effectivement le moyen des aides pour pouvoir nous donner le juste prix.
Là, par exemple, c'est quoi votre production de goyave ici et le prix de vente?
Alors, le prix de vente aujourd'hui, on ne va pas chercher cher, on est entre 1 euro, 1,20 euro du kilo, quoi.
Ce contrat, il dit quoi?
Eh bien, il dit que chaque année, on signe un contrat d'approvisionnement sur une quantité, une quantité bien définie, et que c'est étalé sur toute l'année, voilà, et nous sommes payés, par exemple, tous les 30 du mois, voilà. C'est ça, c'est très clair.
Donc pour vous, c'est la certitude d'un débouché?
Exactement, c'est la certitude d'un débouché. Si on avait à mettre le prix correct, c'est le modèle, Royal, c'est le modèle. Pour tous les gens qui veulent se lancer dans des activités de transformation, les produits capillaires, tout ce qui c'est autour de l'agriculture, on a plus de gens qui veulent transformer que de producteurs. Je le dis toujours, est-ce que vous avez une organisation pour vous fournir régulièrement? Si vous n'avez pas d'approvisionnement, si vous ne pouvez pas trouver des marchés, parce que votre client le jour, vous ne l'approvisionnez pas, il vous laisse tomber, vous voyez. Mais ce qu'on constate dans tous les gens qui se lancent dans quoi que ce soit, la personne fait des glaces, du jus, ils refusent de faire des contrats d'approvisionnement avec nous. Ils veulent travailler avec nous, mais des fois à la petite semaine. Nous, on est toujours mis de côté. Ils considèrent que le maillon faible de leur activité, c'est l'agriculture. Et ils se trompent. C'est le maillon fort. C'est ça. Si vous n'êtes pas approvisionné convenablement, après, vous ne pouvez rien faire. Il faut renverser la tendance. Ce qui pourrait lisser le prix du marché, ce serait si on avait des contrats avec les collectivités. C'est ça qu'il faudrait. Il suffirait qu'un jour, les collectivités mettent en place des contrats d'approvisionnement pour les cantines, pour les hôpitaux. On est payé régulièrement, etc. Ils vont où aller avec la banque, où on est payé régulièrement. On développe l'agriculture. Moi, je suis sûr de ça.
Voilà qu'a dû danser, même si on a croisé mon danser, j'en ai baissé, mais avancer, qui était du bout. Danser, j'en ai baissé.
Martinique, comment produire pour se nourrir? C'était un reportage de Catherine Pétillon avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec Sandrine Fréguin-Grèche, chercheuse au CIRAD. Alors, la dernière réponse politique en date apportée pour lutter contre la vie chère en Martinique, c'est ce protocole signé le 16 octobre dernier. Il a décidé une exonération totale de TVA concernant plus de 6000 articles. C'est donc censé être un levier en faveur de la baisse des prix. Est-ce que ce type de mesure vous semble efficace ?
Alors, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est, à mon avis, hein, et compte tenu du fait que, à la Martinique, comme d'ailleurs dans d'autres territoires d'outre-mer, un des gros problèmes, au-delà de la pauvreté, au-delà de cette question de la vie chère, c'est aussi les questions de santé publique. Et en fait, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'élus locaux, la santé commence par l'assiette, donc la santé commence par ce qu'on mange. Donc en fait, la première question qu'il faut se poser par rapport à cet accord sur la vie chère, c'est quels produits sont concernés. Et là, en fait, donc les listes de produits ont été, en tout cas de grandes familles de produits, ont été rendues publiques. Mais on peut s'interroger sur le choix de ces produits. Effectivement, quand on regarde un petit peu dans la liste des produits, donc il y a peu de fruits et légumes d'ailleurs. En tout cas, il y a quelques légumes transformés, hein, comme les conserves de tomates par exemple, qui sont des produits qui sont effectivement très consommés. Mais à côté, il y a le ketchup. De la même manière, on peut voir qu'il y a des viandes, des préparations, du thon en boîte. Est-ce que ce sont effectivement les produits les plus consommés ?
Donc, et vous savez pourquoi, justement, ce sont ces choix qui ont été faits ?
Mais c'est là où c'est très surprenant, en fait, parce qu'on nous annonce que ces produits concernent les paniers de consommation courante, les produits les plus consommés. Mais quand on regarde, alors si on fait l'hypothèse en partant des importations, donc si on travaille sur les données des douanes, on se rend compte que, en termes de quantité, ce ne sont pas les produits les plus importés, en tout cas. Si on regarde aussi cette évolution, hein, notamment au cours des 30 dernières années, en volume, ça représente entre 10-20% selon les années, avec une très grande variabilité sur l'importation de ces produits. Et donc, c'est vrai que quand on regarde cette liste de produits, on revient à un constat qui est intéressant, hein, à savoir que mangent les Antillais, que mangent les Martiniquais. Il y a aussi beaucoup de produits transformés avec, comme vous le disiez en introduction, des produits qui peuvent être trop gras, trop salés et qui ne sont pas forcément recommandés quand on souhaite avoir une bonne consommation et avec des valeurs nutritionnelles qui sont attendues en tout cas pour lutter contre les problèmes d'alimentation et de nutrition dans ces territoires.
Justement, en Martinique, on constate beaucoup de cas de diabète, également d'hypertension artérielle. Il y a vraiment ce type de problématique.
Oui, oui. Alors, il y a des études de l'INRAE en particulier, hein, qui mettent en exergue des analyses sur la base des données publiques, hein, de Santé publique France, et qui montrent effectivement qu'il y a une prévalence très élevée de ces maladies chroniques qui peuvent en partie être expliquées par la consommation, et notamment par des comportements de consommation de produits en particulier agro-transformés, voire ultra-transformés, ce qui pose la question donc de l'apport nutritionnel de ces produits. Toutefois, hein, comme ça a été dit dans ce reportage et notamment par le docteur Battès, hein, on constate effectivement des comportements par type de consommateurs qui sont très différents. On aurait des populations plus âgées qui auraient gardé l'habitude de cette alimentation plus identitaire basée sur des racines, des tubercules, qui, selon ces mêmes études, sont aussi favorables à la santé dès lors qu'elles ne sont pas bien évidemment contaminées par la chlordécone. Mais ce qui est très préoccupant, c'est aussi de voir l'alimentation des jeunes, qui, comme partout, hein, c'est pas seulement à la Martinique, les jeunes ont tendance à consommer beaucoup de produits transformés, beaucoup de fast-food, et donc cela contribue à s'inquiéter davantage sur ces enjeux de santé publique.
Et le contexte de vie chère ne facilite pas forcément le choix d'une autre alimentation ?
Bien évidemment, c'est-à-dire que quand on va faire ses courses, alors on a entendu, hein, ces consommateurs sur les marchés, déjà il faut avoir le temps d'aller sur les marchés, ça peut prendre un certain temps, et en plus la question de l'accessibilité physique à ces marchés n'est pas forcément évidente pour certains consommateurs qui n'ont pas forcément une voiture, sachant qu'en plus les transports publics sont pas particulièrement développés sur le territoire. Mais même dès lors qu'on arrive à aller sur les marchés, bah comme ça a été mentionné, même dans le cas du Mana où il y a une offre assez importante importante, une diversité importante, mais il y a toujours des produits de consommation qu'on ne va pas trouver. Donc on est obligé d'aller faire ses courses à plusieurs endroits, ce qui peut limiter. Et après, il y a bien évidemment la question du prix. Donc si on regarde un petit peu l'évolution des importations, c'est toujours très intéressant de voir. Parce que la vie chère, bon, c'est pas un sujet récent, hein, comme ça a été mentionné par la personne de la Chambre d'agriculture, Madame Joachin. Effectivement, on voit que les importations sont là depuis toujours, mais que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu à certains moments des fortes augmentations des prix. Ça a été le cas en 2008-2009, avec les conséquences qu'on a vues, des blocages de ports, très forts notamment à la Guadeloupe. Et là, récemment, si on regarde en valeur, effectivement, il y a eu des sauts d'augmentation des valeurs des importations, autour de plus 10, 15, 20% pour certains produits. Et là, effectivement, les gens sortent dans la rue parce qu'ils ne peuvent plus. Et après, la question de la vie chère, il faut aussi la prendre dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a les prix à la consommation, mais il y a aussi les revenus. Il y a aussi les ressources insuffisantes pour acheter. Et donc, on est dans des territoires pauvres.
Catherine Pétillon.
Mais sur le protocole que vous avez évoqué, il y a ces produits qui ont été choisis pour le protocole contre la vie chère. Pour l'instant, du point de vue politique, rien n'a été annoncé non plus pour la relance de cette production locale. Est-ce que, selon vous, c'est une opportunité politique ratée de réorienter justement la consommation vers des produits plus sains? Est-ce que c'est ça qu'on doit attendre?
Alors, je pense qu'effectivement, l'objectif à atteindre est bien de consommer plus sain pour avoir une population en bonne santé, et en particulier les jeunes qui sont l'avenir du territoire. Toutefois, par rapport, si on revient sur l'accord, donc on a parlé du choix des produits, mais on peut aussi s'interroger sur les décisions qui ont été prises concernant les baisses de taxes. Alors, on peut toujours se dire, effectivement, si on baisse les taxes et que ce sont effectivement les taxes qui pèsent sur la formation des prix, ce qui reste encore à démontrer, on peut s'interroger sur le manque de transparence aussi. Si on essaye d'avoir l'information sur des séries d'octroi de mer, qui sont une des taxes qui sont visées par les mesures, quelque part, il y a très peu de transparence. On ne sait pas quels produits sont concernés, on ne sait pas, parce qu'il y a beaucoup d'exemptions aussi qui existent, et ceci depuis des années. Après, est-ce que la baisse des prix doit se faire seulement de par les efforts des pouvoirs publics? Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que non. Et là, c'est sûr que, comme c'est présenté dans votre reportage, il y a une concentration de la grande distribution en particulier qui opère sur le territoire. Et donc, et ça c'était une des mesures qui a été annoncée par le ministre, c'est aussi de regarder comment refaire jouer la concurrence, davantage de concurrence, qui devrait nécessairement aboutir aussi sur une baisse générale des prix. Mais après, par rapport au prix des produits locaux, si on revient à ça, ils sont aussi chers.
Oui, c'était donc, un point travail. Effectivement qui nous a frappé, c'est que la consommation locale, la production locale est... elle aussi, effectivement, a des prix assez coûteux.
C'est ça. Oui. Et là, un de vos intervenants pendant le reportage le mentionne aussi, c'est la question de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que à la Martinique, comme d'ailleurs dans l'Hexagone, la population agricole est vieillissante, les jeunes manquent d'envie, aussi parce que c'est un travail très difficile de travailler dans l'agriculture en général, mais à la Martinique en particulier. Donc, quelque part, cette perte d'attractivité qui se traduit aussi par l'augmentation des friches agricoles, comme la mentionné l'un de vos intervenants, effectivement, il y a des terres qui pourraient être exploitées. Alors, parfois, elles ne le sont pas parce qu'elles sont contaminées, mais parfois, elles ne le sont pas pour d'autres raisons. Le manque de transfert de terres aux jeunes générations, cette méfiance aussi de pouvoir mettre en location ces terres avec la peur de ne pas pouvoir les récupérer si jamais on a un autre projet derrière, ce sont des freins qui limitent l'augmentation de l'offre.
Alors, vous avez fait allusion aux sols contaminés. Ces sols pollués au chlordécone, c'est vraiment un traumatisme majeur pour les Martiniquais.
Alors oui, bien évidemment, et je pense que chaque consommateur, chaque famille a quelque part cette peur d'avoir soi-même été contaminé et de continuer à contaminer ses enfants en consommant local, avec cette défiance par rapport aux produits. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des initiatives locales qui cherchent à faire en sorte de pouvoir cultiver, de pouvoir produire des produits sains, y compris avec ces contraintes, qui sont des contraintes fortes, en cultivant hors sol. Ça a été mentionné, mais aussi sur cette base de la confiance entre le producteur et le consommateur. Il y a des marchés qui existent, en dehors du MANA aussi d'ailleurs, où les consommateurs sont invités à visiter les parcelles des producteurs, à échanger, à mieux comprendre leurs pratiques. Et donc, c'est toute la question de rapprocher en fait le consommateur du producteur pour regagner la confiance, pour pouvoir manger des produits qui sont sains, dont on sait comment ils ont été produits, dans quelles conditions, et aussi de pouvoir négocier un prix juste, ce qui est important.
Catherine ?
Moi, ce qui m'a frappée aussi en étant sur place, c'est combien une partie importante de la production échappe en fait au marché formel aussi, qu'il est échangé, donné. De votre point de vue, est-ce qu'il serait intéressant, enfin, est-ce qu'il serait déjà possible de capter cette production-là qui n'est pas forcément commercialisée ? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à le faire ou pas ?
Alors, je pense que là aussi, il y a plusieurs enjeux. C'est vrai que, bon, en termes de chiffres, hein, si on estime globalement la consommation de fruits et légumes à en gros 50 000 tonnes, on se rend compte que les organisations professionnelles agricoles, hein, quand on parle de structuration, on parle de ces organisations agréées par la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, on est à un peu moins de 7 000 tonnes. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un gros gap entre les deux. En partie comblée par les importations, on en a parlé, mais aussi de cette production qui échappe complètement au contrôle, à des circuits formels. Alors, d'une part, moi je pense qu'il y a une partie, et c'est traditionnel et identitaire, d'avoir un jardin familial pour sa propre consommation, pour la consommation de ses proches qui vivent en ville et pas à la campagne.
On peut dire aussi, que c'est pas un mal d'ailleurs.
Et c'est pas un mal. Là où ça peut être plus embêtant, c'est quand effectivement on n'est pas sûr de ses sols, même si chaque Martiniquais, chaque Martiniquaise peut faire tester gratuitement ses sols. Donc ça, il y a ce premier encouragement à savoir si on, quand on produit dans un jardin familial, est-ce qu'on produit des produits qui ne vont pas nous faire du mal, tout simplement. Après, je pense que oui, il est possible, il y a toujours des surplus, et il serait possible d'envisager des manières de regrouper cette offre, dès lors qu'elle est commercialisable avec une certaine traçabilité, pour pouvoir la mettre à disposition, notamment des ménages urbains. À la Martinique, on n'est pas que dans un territoire rural, il y a beaucoup de gens qui vivent en ville, et qui n'ont pas ou peu accès à ces ressources déjà jardins familiaux. Donc oui, après, comme ça a été dit dans votre reportage, effectivement, il y a cette défiance un peu à faire de l'action collective, il y a des histoires hein, de coopératives qui ont pu s'effondrer, ce sont des traumatismes hein, pour les agriculteurs qui ont vécu cela. Donc effectivement, il y a cette défiance. Mais il y a d'autres formats d'action collective qui sont à promouvoir et qui, notamment, quand on rapproche les consommateurs de ces agriculteurs et que les échanges et la confiance se rétablissent, permettent d'envisager des nouvelles perspectives pour cette production agricole.
Et ce serait intéressant aussi d'aller plus loin dans la recherche sur des variétés locales à développer.
Oui, alors ça c'est effectivement sur les variétés, je pense que c'est le point de départ et d'ailleurs c'est le point de départ de l'agroécologie. C'est-à-dire que l'agroécologie c'est pas seulement produire avec des pratiques qui sont faibles voire qui n'utilisent pas de pesticides ou de produits chimiques, c'est aussi pouvoir valoriser les ressources locales et ça commence par les graines, par les boutures, avec des variétés rustiques, des variétés qui permettent aussi de pouvoir produire sans ces produits chimiques et qui permettent aussi de valoriser une identité culturelle. Je pense que c'est quelque chose qui, dans toutes les sociétés, est très important de pouvoir revenir à des racines d'une alimentation choisie et non subie sur la base de semences, de boutures qui permettent de manger ce qu'on veut. Après, là aussi, il y a des enjeux. Parce qu'il faut certifier aussi la circulation des semences et des boutures pour pouvoir éviter la transmission de maladies dans la production agricole. Les maladies des plantes, hein, je parle.
On peut en tout cas avancer vers l'autonomie alimentaire, pas l'autosuffisance alimentaire à l'échelle de la Martinique, ça semble quand même difficile. Rappelons que c'est une petite île avec une population d'environ 350 000 habitants. Mais en tout cas, on a bien entendu qu'il pouvait y avoir une belle marge de progression. Martinique, comment produire pour se nourrir? C'est donc le grand reportage de cette semaine, signé par Catherine Pétillon. Merci beaucoup Sandrine Fréguin-Grèche. À la réalisation aujourd'hui, Annie Bro, à la technique Marie-Claire Roumabadi et Mineta Diawara. Documentation Christine Anzano et Véronique Le Faller. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.